Bonjour et shalom chez vous. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 11 juin 2026. Vous écoutez Méditons ensemble avec le révérend Jean-Claude Coffi. Aujourd'hui, nous allons suivre la troisième partie du thème « Réveille-toi, toi qui dors ». Nous avons quatre textes de référence en ouverture de notre méditation. Nous commencerons par le premier qui se trouve dans Matthieu, chapitre 5, versets 13 à 16. Il est écrit « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Éphésiens chapitre 5, verset 14, il est écrit « C'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Apocalypse 2, versets 4 à 5 « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi. » Et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Apocalypse 2, versets 8 à 16, il est écrit. « Écris à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent « juifs » et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Écris à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là où est le trône de Satan, tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » En considérant l'histoire de l'Église, telle que prophétiquement révélée dans les 7 lettres du livre de l'Apocalypse, nous découvrons comment Satan a réussi à faire sombrer l'Église dans la tourmente de la mort spirituelle. En effet, dans son combat contre le réveil spirituel, au fil des décennies et des siècles, Satan, après s'être attaqué à l'amour de Dieu dans le cœur des chrétiens et au sein de l'Église primitive, a sorti ensuite 2 autres armes de son arsenal de guerre contre l'Église. L'arme de la persécution contre l'Église au temps de Smyrne et l'arme de l'infiltration contre l'Église au temps de Pergame. Satan avait compris qu'après avoir réussi à dépouiller les chrétiens de leur premier amour, ceux-ci étaient devenus vulnérables et fragiles. C'est à la suite de cela que le diable lança le deuxième assaut contre le réveil. Ce deuxième assaut visait à faire rentrer l'Église dans la clandestinité, à la rendre invisible dans la société, à étouffer son témoignage par l'intimidation à travers une série de persécutions. Ainsi, non seulement il, le diable, s'était mis à persécuter l'Église en l'agressant de toutes les manières possibles, et ce, avec une férocité luciférienne. Pour Satan, il fallait créer les conditions qui devraient amener l'Église à mettre sa lampe sous le boisseau plutôt que de la mettre sur le chandelier. Vous comprenez bien qu'à travers l'arme de la persécution, c'est la visibilité de l'Église que le diable voulait restreindre. Or, un des traits du réveil dans la vie d'une Église ou d'un enfant de Dieu, c'est sa capacité à être un témoin de Christ partout et en tout temps, ce qui humilie et agace le diable au plus haut degré. Je vous propose de faire un tour d'horizon de la façon dont le diable a fait subir à l'Église persécution sur persécution. C'était au cours des 2e et 3e siècles jusqu'aux premières années du 4e siècle. La pratique de la foi en Christ avait été interdite. Les disciples étaient considérés comme des hors-la-loi. L'Empire romain trouvait insupportable l'expansion de la foi et du royaume des cieux. Il fallait écraser cette foi. Mais il convient de souligner que, de Trajan à Marc Aurèle, les persécutions furent légères et spasmodiques, même si le christianisme n'était pas reconnu officiellement. C'est après la mort de Marc Aurèle en l'an 180 que s'installa une certaine confusion. En l'an 202, Septime Sévère, successeur de Marc Aurèle, avait lancé une cruelle persécution qui a duré jusqu'à l'an 211. Il avait déclenché les persécutions partout dans l'Empire. Elles furent particulièrement sévères en Égypte et en Afrique du Nord. À Alexandrie, Léonidas, le père du grand théologien Origène, fut décapité. Une femme noble de Carthage, Perpétua, fut taillée en pièces par les bêtes sauvages en compagnie de sa fidèle esclave Félicitas, en l'an 203. La cruauté de l'empereur Septime Sévère était telle que de nombreux écrivains chrétiens d'alors l'assimilaient à l'Antéchrist. Après Septime Sévère, le règne passa entre les mains de Décius, dont le règne éphémère avait vite mis un terme provisoire au massacre des chrétiens. Suivit un temps d'accalmie, du temps des successeurs de Septime Sévère. Cependant, la persécution avait atteint son paroxysme avec Dioclétien et ses successeurs. Sous son règne, la persécution fut atroce. À ce propos, voici ce qu'écrit Jesse Lyman Hurlburt dans l'histoire de l'Église chrétienne. La dernière persécution, la plus systématique et la plus terrible de toutes, a eu lieu sous le règne de Dioclétien et celui de ses successeurs de 303 à 310. Un édit, adopté à cette époque, ordonnait entre autres que soit brûlée toute copie des livres saints du christianisme et que toutes les églises qui avaient été érigées pendant les 50 ans de répit qui avaient précédé soient démolies. Tous ceux qui n'avaient pas renié leur foi en Christ devaient être déchus de leur citoyenneté romaine et privés de la protection de la loi. En certains lieux, on est allé jusqu'à rassembler les chrétiens dans leurs églises avant d'y mettre le feu, brûlant les croyants qui y étaient enfermés. On affirme que l'empereur Dioclétien a fait ériger une colonne portant cette inscription en honneur à l'extirpation de la superstition chrétienne. Fin de citation. La persécution fut donc la deuxième arme de Satan contre le réveil. Quelles leçons pouvons-nous tirer de cela? Primo, Satan, une fois qu'il réussit à dépouiller le cœur des chrétiens de la passion pour Dieu, sème la peur dans l'Église, intimide les disciples, les oblige à la clandestinité, restreint leur visibilité, étouffe leur capacité à être des témoins et à rendre témoignage, éteint la flamme du réveil. Soyons vigilants. Quoi qu'il arrive, en temps de paix ou en temps de persécution, souvenons-nous que notre cité, à nous, est dans les cieux. Demeurons attachés au Seigneur. À retenir. Quand le diable s'attaque à l'amour de Dieu en nous ou en notre sein, c'est pour dépouiller le chrétien ou l'Église de la substance de sa piété. Quand le diable s'attaque à l'amour en nous ou en notre sein, c'est pour nous fragiliser et nous rendre vulnérables. La deuxième arme que Satan a utilisée dans l'histoire de l'Église contre le réveil a été la persécution. L'objectif ou l'agenda satanique derrière toute persécution est l'intimidation et la politique de contrainte l'Église et les chrétiens à la clandestinité. Ayant compris ces choses, tenons ferme quoi qu'il arrive en restant attachés à Christ. Puisse le Seigneur nous faire faire des exploits avec Dieu selon le psaume 60, verset 14. Excellente et bénissante journée en Christ. Signé votre serviteur, le docteur Jean-Claude Coffi, ce jeudi 11 juin 2026.